Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmel.
Il est précisément midi, bienvenue à tous dans 60 minutes business. À la une de l'actualité de ce vendredi, c'est cette Renaulution qui est bien en cours, même s'il faut le deviner derrière la perte d'1,5 milliard d'euros du groupe Renault. Mais le patron du constructeur Leica de Meo nous explique les performances. Il est l'invité exclusif de BFM Business dans un instant. Un rebond plus fort que prévu du PIB au deuxième trimestre en France, plus 0,5%. L'économie portée par le tourisme étranger, mais la consommation des ménages, elle continue de s'éroder. Et puis l'inflation passe la barre des 6% en France, du jamais vu depuis le milieu des années 80. Le phénomène est en train de se diffuser à toute l'économie. On fera le point. Bienvenue à tous. Cette Renaulution qui est en cours alors que le groupe automobile est plombé après sa retraite de Russie qui lui a coûté 2,3 milliards d'euros, Renault profite d'une hausse globale du prix des voitures pour améliorer sa rentabilité. 657 millions d'euros de résultats nets hors Russie. Le directeur général Luca de Meo se montre optimiste pour l'année à venir. Il était au micro BFM Business de Pauline Ducamp.
Je dirais pas que les résultats sont en demi-teinte. Je pense que c'est en fait les meilleurs résultats qu'on a fait d'un point de vue opérationnel dans les derniers 10 ans. Donc, je pense que ça marque un tournant dans l'histoire de récente de Renault. Je pense qu'avec ces résultats, on confirme que l'urgence est derrière nous chez Renault. Et on regarde maintenant au prochain mois comme une phase où on va développer tous les projets qu'on a en tête pour remettre Renault où elle mérite d'être dans l'industrie automobile. La Russie, c'est derrière nous. C'était une décision malheureusement nécessaire pour les conditions de contexte. Mais je pense que l'équipe a été très rapide, très décisive. Et donc, voilà, on a dû fermer pour l'instant ce chapitre de l'histoire de Renault, mais on est bien content de pouvoir se concentrer sur le reste des sujets, on en a beaucoup.
Est-ce que vous avez quand même encore des contacts avec les équipes sur place pour peut-être préparer un jour un avenir qui pourrait de nouveau exister?
En fait, on a l'option de pouvoir dans 2 ans, 4 ans, 6 ans revenir reprendre nos actifs et notre activité, mais bon, ça dépendra beaucoup des conditions, de choses que nous on peut pas contrôler. Donc voilà, ça c'est la situation aujourd'hui.
Marge opérationnelle à 4,7%, un free cash flow positif. Renault est sorti définitivement de l'ornière financière?
Moi, je pense qu'on peut dire ça. C'est clair qu'on vit un temps d'incertitude de tous les côtés. Donc, il faut qu'on soit prudent. On continue avec la même discipline qu'on a démontré ces derniers 2 ans. Mais je pense que les équipes ont fait un travail incroyable chez Renault. Quelque chose que même les analystes, s'attendaient pas. Ils étaient surpris. On le voit de la réaction aussi des marchés. C'est bien. Donc, nous, on croit avoir... tourner la page sur ça, ça fait quand même 4 semestres qu'on gagne l'argent et ça devient de mieux en mieux. Donc on a plutôt la tendance à penser qu'il faut qu'on se mette sur une phase de développement plutôt que d'éteindre des feux à droite à gauche.
Luca de Meo pour commenter en exclusivité les résultats semestriels de Renault, la crise en Ukraine, le passage à l'électrique, toutes les ambitions dans l'industrie automobile. Vous retrouverez cette interview en longueur ce soir à 18h avec Raphaël Duchemin dans BFM Business. Et malgré le ralentissement du marché automobile lié directement à la guerre en Ukraine, eh bien les constructeurs sortent la tête de l'eau. C'est aussi le cas de Stellantis hier qui a battu tous les records. Le groupe PSA Fiat Chrysler affiche un chiffre d'affaires en hausse de 17% à 88 millions d'euros, alors que les ventes en volume reculent de 7%. C'est une première depuis l'épidémie. Air France KLM dégage son premier bénéfice trimestriel. La compagnie aérienne poursuit son plan de transformation et confirme, Jean-Baptiste Huet, le redressement de son activité.
Ah, Ben Smith, le patron d'Air France KLM, l'avait dit sur ce plateau, l'été sera chaud. Effectivement, c'est chaud, hein, et ça commence à se traduire clairement dans les chiffres. Un résultat du deuxième trimestre donc de 324 millions d'euros, en amélioration de presque 2 milliards par rapport à la même période l'an dernier. Air France et sa compagnie sœur KLM parviennent toutes deux à dégager une marge d'exploitation positive. 3,3% pour Air France, 9,4% pour KLM. Ça, c'est un très bon signal qui est envoyé. Chiffre d'affaires donc du deuxième trimestre en hausse de 137%. Une solide reprise du voyage d'affaires, notamment en Afrique. Puis la low-cost Transavia hein, qui continue de performer avec maintenant plus de 100 appareils à sa disposition. Bref, de bons résultats. Sur le deuxième trimestre, Air France KLM a déployé une capacité de 82% de sièges par rapport à 2019. Ce devrait être 85% pour le troisième trimestre et 90% pour le quatrième trimestre. Montée en puissance régulière. Un bémol toutefois, hein, les différentes congestions que l'on observe en ce moment dans les aéroports à travers le monde eh bien, pénalisent un petit peu le trafic. Peut-être de quoi gréver un peu les prochains résultats. C'est ce que dit Ben Smith d'ailleurs. Hein, la forte reprise à laquelle nous assistons cet été met à l'épreuve hein, l'ensemble du transport aérien. Nous ne sommes pas épargnés par les difficultés opérationnelles. C'est dit. Enfin, le groupe indique pour terminer eh bien, qu'il ira bientôt rechercher à nouveau de l'argent frais sur les marchés. Air France procédera plus tard, 2022-2023, à une éventuelle obligation d'émission hybride pour un montant pouvant atteindre 1,2 milliard d'euros sous réserve des conditions de marché.
Mais Jean-Baptiste Huette, les 324 millions d'euros de bénéfices nets sont bien le symbole que les passagers sont de retour dans les avions aujourd'hui et cette surprise tombée du ciel, il nous emmène sans doute cette croissance française, plus 0,5% de PIB au deuxième trimestre. Les plus optimistes attendaient moitié moins, 0,25%. Alors d'abord, il y a bien sûr donc ceux qui viennent consommer en France, les achats des étrangers, l'une des raisons de cette bonne nouvelle. Également, les investissements des entreprises qui résistent. C'est une très bonne nouvelle pour l'économie française, cette croissance. Peut-être pas une bonne nouvelle politique. On va en parler avec Sébastien Bock. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
C'est économiste chez Asterès. Merci d'être avec nous Sébastien. On le dit, voilà, cette croissance plus 0,5%, c'était inattendu. Pour autant, est-ce que c'est structurel ?
Est-ce que c'est structurel ? Bah, en tout cas, les prévisions pour les années à venir restent tablent quand même sur une croissance qui devrait se maintenir en fonction aussi des incertitudes géopolitiques et puis de l'évolution des taux directeurs de la Banque centrale dont on va voir l'évolution. Mais globalement, les indicateurs structurels de l'économie française restent plutôt assez favorable, notamment au regard de l'emploi qui se maintient à un bon niveau et puis également, vous l'avez dit, de l'investissement des entreprises qui résiste pour l'instant. Donc, on pourrait dire, et on reste aussi dans un contexte de reprise hein, après le Covid, donc on pourrait dire que la baisse de croissance qu'on observe cette année, c'est quand même surtout des facteurs conjoncturels liés à la consommation des ménages au regard de la crise et de l'inflation.
Sébastien Bord, détaillez-nous ces différents moteurs de l'économie française. On parle effectivement des touristes, on parle aussi de la consommation des ménages qui finalement, certes, est en baisse, mais résiste un petit peu.
Oui, en effet. Donc, au premier trimestre 2022, on avait une croissance qui était négative à moins 0,2% avec une consommation des ménages qui était à moins 0,7%. Et là, on a effectivement une bonne surprise avec une croissance à 0,5%. Déjà, on peut rappeler que cette croissance est calculée par rapport au premier trimestre, donc qui a l'effet rebond par rapport à la récession, enfin la baisse qu'on avait observée au premier trimestre. Et on a également effectivement une consommation des ménages qui est moins en berne qu'au premier trimestre, à moins 0,13%. Là, on peut probablement imputer cette évolution aux mesures de soutien à la consommation et au pouvoir d'achat mis en place par le gouvernement. Et on a aussi, comme vous l'avez dit, un effet tourisme, donc qui est probablement spécifique dans une certaine mesure à la France ou à des pays comparables au niveau tourisme. Où on a une dépense des touristes étrangers qui joue en notre faveur, et également des exportations de services de transport qui tirent la croissance.
Mmh. Oui, ces touristes étrangers, les Américains notamment, qui reviennent, qui dépensent beaucoup également dans les transports. Mais on voit bien aussi qu'il y a les investissements des entreprises qui, malgré l'inflation, continuent d'être importants.
Oui, tout à fait. Alors, donc ça, c'est effectivement une bonne chose. Donc ça se maintient au même niveau, enfin avec la même variation qu'au trimestre précédent, à plus 0,12%. Ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore eu d'effet négatif de hausse des taux sur ces investissements, puisque donc vous le savez sûrement, la BCE a augmenté ses taux directeurs il y a une semaine de 50 points de base. Donc pour l'instant, on voit pas encore d'effet négatif de cette hausse des taux sur l'investissement, mais si la hausse se prolonge et peut-être augmente, on va peut-être commencer à voir l'effet négatif sur l'investissement, comme on l'observe par ailleurs aux États-Unis depuis quelques mois, où on peut dire que la politique de la banque centrale a été plus agressive, plus précoce, plus qu'en Europe, mmh. et où on observe là-bas une croissance négative pour le deuxième trimestre consécutif.
Et oui, on regarde de près effectivement l'économie américaine, un peu en avance sur nous, puisque la Fed a rehaussé pour la quatrième fois ses taux directeurs, donc la croissance est en berne. Aujourd'hui, la BCE n'a certes pas suivi le même rythme, mais elle pourrait le poursuivre pour lutter contre l'inflation. Sébastien Bord, vous pouvez nous en dire un mot, plus 6,1% sur un an. C'est un chiffre, bien sûr, qui glisse. Elle augmente de 0,3 points par rapport à juin. Elle n'avait jamais été aussi élevée depuis 1985.
Oui, en effet, on revient vraiment dans un contexte qu'on n'avait pas connu depuis longtemps. Moi-même, en tout cas, je n'avais pas connu un contexte d'inflation comme ceci. On avait un peu oublié ce problème. En économie, on parle de grande modération toute la période, toutes les trois dernières décennies qu'on a traversées avec une inflation très modérée. Et là, on retrouve ce contexte qu'on connaissait peu, avec donc tiré bien sûr par les prix de l'énergie de la crise, enfin liée à la crise ukrainienne, et qui se transmet petit à petit au reste de l'économie, avec ce mois-ci une inflation dans l'alimentaire qui est à 6,7% par rapport à juillet de l'année dernière, et qui se transmet aussi petit à petit aux biens manufacturés et aux services, mais encore un niveau modéré. Et on peut souligner que l'inflation reste à un niveau moindre que nombre de nos voisins, par exemple en Allemagne, où elle est à 7,7%, mais où elle a commencé à ralentir. Et donc là-dessus, on peut aussi rappeler que on n'a pas tout à fait la même trajectoire, puisque ici, ça l'inflation continue d'augmenter, et donc on n'a pas un effet des mesures anti-inflation qui est aussi efficace probablement que les mesures prises en Allemagne qui ont été assez fortes.
Mais pas à n'importe quel prix, et ça a coûté 40 milliards d'euros au gouvernement français, ces mesures de soutien au pouvoir d'achat et d'aide aux entreprises en difficulté. Merci Sébastien Bord, économiste chez Asterès, d'être venu détailler avec nous ces chiffres tombés ce matin, croissance et inflation qui, on le voit, commence à se répandre, à déborder tous les secteurs de l'économie, mais on est toujours en dessous de la zone euro avec ce chiffre qui est tombé il y a moins d'une heure. Elle atteint un niveau record dans la zone euro, plus 8,9% au deuxième trimestre, en hausse de 0,7%. Le PIB allemand, lui, reste stable, inchangé au deuxième trimestre, une croissance de 0,8% pour les trois premiers mois de l'année, sur fond, on le dit, d'inflation record. En Italie, là, la croissance a augmenté de 1% en un trimestre, c'est au-dessus des prévisions. Au Portugal, le PIB, lui, recule de 0,2% au deuxième trimestre. Et puis enfin, l'inflation espagnole, elle bat tous les records, plus 10,8% en juillet, du jamais vu depuis 38 ans. On le disait, les États-Unis, eux, enregistrent une croissance négative, peut-être un début de récession, puisque le PIB s'est contracté de 0,9% au deuxième trimestre, après un recul de 1,6% au premier trimestre, deux trimestres consécutifs de baisse. Et bien voilà, les économistes ne l'avaient pas anticipé, mais techniquement, c'est ce qu'on appelle une récession. Et pour autant, dans la tech américaine, il y a des bons résultats qui sont tombés, ceux d'Apple, d'Amazon, qui résistent plutôt bien. Le chiffre d'affaires progresse de 7% pour Amazon, à 121 milliards de dollars. Et pour Apple, il est supérieur supérieur aux attentes à 83 milliards de dollars. Loubna Anaki à New York, les deux groupes ont rassuré les marchés hier soir.
Oui, absolument. Surtout que ce n'était pas du tout garanti. Amazon sort d'une phase un peu difficile avec la fin des restrictions liées au Covid et le fait, eh bien, que les gens sont de retour dans les magasins pour faire leurs courses directement. Le groupe a également enregistré d'importants retards dans la construction de centres de distribution censés faciliter les livraisons rapides. Ces résultats de deuxième trimestre, une hausse de 7%, c'est forcément une bonne nouvelle dans ce contexte économique compliqué. Et ça ne s'arrête pas là. Le groupe annonce des prévisions de 125 à 130 milliards de dollars au prochain trimestre. De son côté, vous l'avez dit, Tim Cook s'est félicité des résultats d'Apple tout en reconnaissant les défis rencontrés par le géant américain. Le groupe fait face à des problèmes d'approvisionnement importants, notamment en raison de sa dépendance envers la Chine. Il faut savoir que 90% des produits Apple sont fabriqués en Chine et le pays est toujours en proie à la pandémie de Covid-19.
Justement, la fermeture partielle du marché chinois, la Maison-Blanche s'est entretenue hier soir avec Pékin, Joe Biden et Xi Jinping au téléphone pour discuter également des tensions militaires autour de l'île de Taïwan que la Chine menacerait d'envahir, mais également ses différends commerciaux. Les deux leaders ont certes joué carte sur table, mais finalement, peu d'avancées majeures, Sébastien Le Belzic.
Oui, 2h15 de discussion approfondie selon Pékin est l'occasion pour la Chine de marteler son opposition à la visite prévue le mois prochain de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à Taïwan. Un véritable casus belli pour Pékin qui menace les États-Unis de représailles, agitant même la menace militaire. Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu, a même menacé Xi Jinping. Pour la Chine, l'île de Taïwan est l'une de ses provinces historiques. Elle en revendique la souveraineté et elle s'oppose, elle l'a rappelé fermement ce jeudi, à toute initiative qui donnerait aux autorités taïwanaises une légitimité internationale. Une autre guerre, commerciale, celle-là, était également au menu de cette discussion. Pékin souhaite la levée des sanctions commerciales américaines. Pour Xi Jinping, il en va de la responsabilité des deux plus grandes puissances économiques du monde. Et cela permettra, selon lui, de relancer la croissance mondiale. La Chine en a d'ailleurs bien besoin, hasard du calendrier. Xi Jinping présidait en effet ce jeudi une réunion des cadres du Parti communiste au cours de laquelle il a expliqué que le pays aurait bien du mal à tenir ses objectifs de croissance et qu'il fallait se préparer à des temps difficiles.
Midi 17 en France, une mise en garde de l'Autorité Nationale des Jeux et c'est tout le modèle économique de Sorare qui vacille. La start-up au palmarès qui a fait des envieux avec la plus haute levée de fonds jamais réalisée en France, 580 millions d'euros, c'était l'an dernier. Elle permet d'acheter, de spéculer sur des cartes de footballeurs sous forme de NFT, ces jetons non fongibles qui fonctionnent sur le principe de la blockchain, mais pour le régulateur, eh bien la start-up va devoir prouver que son activité n'est en fait pas des paris sportifs déguisés, Étienne Henry.
Une menace plane sur Sorare. D'après les informations de BFM Business, l'ANJ a mis en garde la licorne à l'origine de la plus grosse levée de fonds de la French Tech. Cette mise en garde oblige Sorare à prouver d'ici l'automne qu'elle n'est pas une plateforme de paris sportifs à l'image de Winamax ou Betclic. Sorare permet à ses clients d'acheter des cartes virtuelles associées à un joueur. Avec ces cartes, les utilisateurs peuvent participer à des tournois et ce sont les performances réelles des sportifs qui influent sur les résultats du tournoi et les récompenses à la clé. Ces tournois payants éveillent les doutes du régulateur. Si la mise en jeu de cartes virtuelles pour gagner de l'argent sur la base de performances sportives est caractérisée comme un pari sportif, Sorare fera face à une fiscalité plus lourde, devra contrôler l'identité de tous les utilisateurs et l'interdire aux mineurs. L'Autorité nationale des jeux n'est pas la première à mettre en garde Sorare. En octobre 2021, le régulateur britannique a aussi ouvert une enquête.
Jusqu'où ira Vivendi pour s'emparer de Lagardère, le géant des médias propriété de Vincent Bolloré, se dit prêt à se séparer d'Editis, la maison mère de nombre de maisons d'édition, numéro 2 dans le secteur en France, afin de mettre la main sur Hachette, le numéro 1, sous pression de la communauté européenne, afin de boucler son OPA. Alexandra Pagé.
Le combat aura été âpre, mais Vivendi jette l'éponge pour conserver le groupe Hachette, numéro 1 de l'édition en France. Bolloré se sépare donc d'Editis, le numéro 2. Le projet de cession se fera via une distribution aux actionnaires et une cotation sur Euronext Paris. Dès l'ouverture de l'OPA de Vivendi sur l'empire du groupe d'Arnaud Lagardère, il était certain que la fusion entre Hachette et Editis ne se ferait pas en l'état au regard des règles de concurrence européenne. La part de marché cumulée des deux rivaux de l'édition dépassait les 50% dans de nombreux domaines. sur les marchés francophones. Yannick Bolloré aux commandes aura pourtant tout tenté pour conserver le meilleur des deux groupes en France et revendre le reste à un acteur tiers. Mais devant l'échec des négociations, Vivendi se contentera de l'intégralité des maisons d'achette. Calman, Lévy-Grasset, Stock, Fayard, Le Livre de Poche, Lattès, Larousse et Hatier.
Midi 19 sur BFM Business, on jette un œil à la bourse. Rejoindre Aude Kersulek. Aude, ce matin, la bourse de Paris est en forte hausse avec les résultats de beaucoup d'entreprises tombées ce matin.
Oui, une très belle hausse du vendredi. On continue sur une hausse de plus de 1%, 1,16% pour le moment. Alors hier, on était allé récupérer les 6300 points. Ce matin, on a eu la bonne surprise d'aller chercher les 6400 points, 6413 points. Alors c'est vrai qu'en cette fin de semaine, les esprits sont apaisés, les grandes échéances sont passées. Alors on a eu cette hausse de taux de la Fed, mais finalement, on est rassuré sur les perspectives à venir. Et avec des PIB européens qui sont tombés et pour la plupart qui évitent la contraction de l'économie, c'est aussi une bonne nouvelle. Et puis on a évidemment tous ces beaux résultats d'entreprises sur lesquels s'appuyer. D'abord merci le luxe hein, puisque Hermès continue de survoler ce CAC 40 hein, plus 5,3% pour la valeur 1307 euros, avec une marge opérationnelle qui fait encore pâlir tous ses concurrents, un 42% de marge opérationnelle et puis un bénéfice en hausse pour ce semestre. On a Capgemini aussi qui s'affiche dans les premières places du CAC 40. Les valeurs de croissance sont décidément à la fête. Un Capgemini, le bénéfice est en hausse de 50% et le chiffre d'affaires continue de connaître une croissance à deux chiffres. Et on a aussi des secteurs un petit peu plus traditionnels hein, qui sauvent les meubles. Pour Renault, plus 3,7% pour la valeur, 28,38 €. Alors il y a eu cette perte nette hein, de 1,3 milliard d'euros résultat part du groupe, mais c'est imputable à la cession d'Avtovaz à la Russie, donc c'est assez exceptionnel. Et on a des indicateurs qui restent très encourageants, notamment au niveau de la marge opérationnelle qui a été préservée à 4,7% et dont on a relevé l'objectif pour l'année à 5%. Et puis ce cash généré par l'entreprise, là on est largement en avance par le plan dévoilé par Luca De Meo, donc ça c'est aussi une très bonne nouvelle. Et puis du côté des banques, ça se passe bien aussi, plus 3,6% pour BNP Paribas à 46,33 € après cette publication du matin où tous les pôles d'activité de la banque sont en forte hausse et notamment la banque de détail qui se reprend. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le coût du risque qui continue de descendre. Alors, dans le rouge, sur le CAC 40, on a des valeurs qui sont un petit peu moins bien arbitrées. C'est le cas d'Essilor Luxottica ou aussi de Legrand qui perdent entre 1,7 et 2 %. Et puis Vivendi dans le rouge aussi. Après, vous en avez parlé, hein, après avoir annoncé qu'il vendrait Editis parce qu'il lui préfère Hachette hein, pour gagner le package de Lagardère.
Oh, en dehors du CAC 40, il y a aussi des résultats ce matin.
Oui, d'autres résultats sur l'indice large. Alors ça a été le cas de CGG. CGG, c'est un parapétrolier et la valeur prend déjà 6%. Alors le résultat opérationnel en fait est sorti du rouge enfin ce semestre. CGG maintenant a un chiffre d'affaires qui a progressé de 14% et donc on s'en sort plutôt bien à 86 centimes la valeur. On a d'autres groupes qui continuent de bien performer. Alors Elior qui a publié il y a quelques jours, mais là ça continue de bien monter hein, dans ce secteur des services aux entreprises de restauration collective. Et on est vraiment sorti du bois cette semaine parce que la valeur a pris 30% depuis sa publication mardi. Et ça continue avec 13% de hausse aujourd'hui. Et puis enfin, dernière valeur, on a Air France. Air France qui renoue avec le vert pour la première fois depuis la crise sanitaire avec un bénéfice de 324 millions d'euros. Là, c'est très applaudi par le marché aussi puisque Air France prend 5,5% devant une autre valeur du tourisme, ADP, Aéroport de Paris, qui prend elle 5,3% à 136,50 €. Voilà tous ces beaux résultats qui soutiennent la tendance. Le CAC a lui en hausse de 1,2% à 6418 points.
Merci Aude Kersulek en direct de Euronext pour BFM Business. Midi 23, on marque une petite pause et puis dans un instant, on parle de ces gares bondées, de ces bouchons sur les routes. Vous le savez, c'est le grand chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. L'occasion pour le secteur du tourisme de faire le bilan après ce premier mois estival passé. Vincent Sitz est avec nous dans un instant, le président de la commission emploi formation au GNI. A tout de suite.
BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Thomas Schmell.
Bienvenue à tous dans 60 minutes business à midi 25. Nous sommes le 29 juillet. C'est l'occasion de faire le bilan à mi-chemin de cette saison estivale. Le bilan touristique, on l'a dit, la croissance française plus 0,5% au dernier trimestre a notamment été portée par le retour des touristes étrangers. Pour en parler avec nous, Vincent Sitz, bonjour.
Bonjour.
Président de la commission emploi formation au groupement national des indépendants de l'hôtellerie. Vincent, est-ce que le mois de juillet a été un bon cru ?
Bah écoutez, oui, on peut déjà se satisfaire et se réjouir de voir nos clients de retour dans nos établissements et de voir que l'activité est quand même présente. Maintenant, il faut un point entre l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs, et on peut voir selon les chiffres de notre observatoire que l'hôtellerie en général surperforme en moyenne entre 10 et 25%, que les traiteurs également travaillent plutôt bien avec une activité conséquente avec la reprise des réceptions, des festivals et toutes les activités qu'il peut y avoir, des entreprises aussi qui refont des déjeuners pardon, et autres manifestations. En revanche, dans la restauration et les cafés, on voit un peu que cette activité est un peu disparate en fonction des établissements, mais aussi en fonction de la région, puisqu'en moyenne, l'activité est à peu près de plus de 2% pour ces établissements.
Vous pensez?
Alors effectivement, c'est un chiffre d'affaires qui progresse moins bien que les autres, que l'hôtel ou les traiteurs, mais ça vient du fait de la pénurie de main d'œuvre que l'on subit depuis maintenant un petit moment depuis la reprise post-Covid. Et le fait concret, c'est que pour beaucoup d'établissements ont dû soit fermer des jours, des week-ends, des soirs, réadapter leurs services, les réduire pour pouvoir justement satisfaire leurs clients.
Alors justement, on y reviendra sur cette pénurie qui était annoncée. Est-ce que la météo a aidé le tourisme? Il y a eu quand même deux vagues de chaleur, on parle d'une troisième qui pourrait arriver. Est-ce que ça a ralenti parfois l'activité?
Oui, alors autant nous on est météo dépendant et on est toujours content et satisfait de voir qu'on va avoir un beau temps, que ce soit en province ou sur Paris. Mais dès qu'on arrive sur des fortes chaleurs, bien évidemment, la contrainte fait que les clients se déplacent moins, consomment moins parce qu'il fait plus chaud, que c'est moins agréable même si on est en terrasse de consommer. Donc les fortes chaleurs impactent l'ensemble du secteur, oui, tout à fait.
Et concernant les touristes, on le sait, la SNCF affiche 10% de ventes en plus sur ses trains. Les Français privilégient la France cette année, mais ils repartent à l'étranger. Est-ce que vous voyez les touristes étrangers revenir, les Américains, dont on sait qu'ils dépensent beaucoup leur argent dans notre pays?
Alors déjà, nous, on est satisfait de voir que les Français privilégient notre territoire et nos régions pour pouvoir prendre leurs vacances actuellement. Je pense que le Covid a aussi permis à beaucoup de se dire la France, c'est pas mal, on a beaucoup de belles choses à voir et à découvrir. Maintenant aussi, on se réjouit de voir les touristes revenir. Beaucoup de touristes européens qui aujourd'hui viennent fréquenter la France. Et le retour, effectivement, des Américains qui, comme beaucoup d'autres touristes, aussi consomment un peu plus.
Et alors, est-ce que cet été confirme bien les difficultés de recrutement de saisonniers? Comment s'annonce le mois d'août?
Écoutez, le mois d'août s'annonce comme trois mois précédemment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est vraiment dans le dur, c'est qu'on a vraiment une grosse difficulté de pénurie de main-d'œuvre et de recrutement. Alors, faut remettre un peu les choses dans l'ordre. La pénurie de main-d'œuvre, on l'a pas découvert post-Covid, elle existait déjà bien avant le Covid, puisqu'on avait déjà l'équivalent de 150 000 postes à pourvoir dans notre secteur, mais bon an mal an, on arrivait à pourvoir à l'ensemble des postes. Les deux confinements successifs ont fait qu'une partie de nos salariés ne sont pas revenus après l'activité partielle. Le Covid leur a permis de pouvoir cumuler des emplois, enfin cumuler avoir l'activité partielle et les découvrir d'autres secteurs d'activité et donc pour certains d'y rester. Et puis pour d'autres, c'était aussi l'occasion de pouvoir faire une reconversion ou de se dire c'est le moment de faire une formation pour aller faire un autre métier puisque j'en ai l'occasion et le temps. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une partie de nos salariés qui ont quitté le secteur et avec activité qui reprend dans l'ensemble, mais qui impacte le chiffre d'affaires des établissements, puisqu'on ne peut pas forcément accueillir tout le monde.
Et une partie de l'activité qui est pénalisée. Merci Vincent Sitz. Président de la commission emploi et formation au groupement national des indépendants de l'hôtellerie restauration, d'avoir fait le bilan avec nous à mi-chemin. On refera le bilan, bien sûr, au cours du mois d'août pour voir si ces difficultés persistent, si les touristes étrangers sont bien de retour et si les Français sont heureux de consommer dans vos établissements. Merci d'être venu avec nous. Midi et demi sur BFM Business. Dans un instant, le rappel des titres et puis BFM Business avec vous. Les meilleurs moments de l'année, les rediffusions de l'été. À tout de suite. Midi 31 sur BFM Business, Emmanuel Macron veut coopérer avec l'Arabie Saoudite après le dîner hier soir, dîner polémique à l'Elysée avec le prince héritier Mohamed Ben Salman. L'Elysée explique ce matin que les deux nations vont coopérer pour atténuer les effets de la guerre en Ukraine. L'invasion russe qui, on le sait, a provoqué une inflation mondiale qui déborde aujourd'hui sur tous les secteurs. La hausse des prix à la consommation en France est accélérée en juillet, plus 6,1% glissant sur un an, c'était 5,8% le mois dernier, selon une première estimation de l'INSEE, chiffre le plus élevé depuis juillet 85. Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de plus 0,3%. Dans le même temps, une bonne nouvelle, l'INSEE a annoncé que la France avait renoué avec la croissance, plus 0,5%, alors que les plus optimistes attendaient moitié moins. Des résultats qui sont tombés ce matin, BNP Paribas enregistre un deuxième trimestre record à 3 milliards 18 millions d'euros, bien parti pour une année exceptionnel. Renault aussi a tourné la page. Lucas Demeo annonce que le groupe automobile remplira ses objectifs cette année, malgré sa retraite de Russie qui lui coûte une perte de 1 milliard d'euros, 368 millions d'euros de bénéfices nets sur le premier semestre. Et si leur Luxottica, lui, voit sa marge se rehausser au premier semestre, malgré un contexte difficile, le fabricant des lunettes Oakley, Ray-Ban, augmente son chiffre d'affaires de 7% à 6,039 milliards d'euros. L'action Hermès, elle, grimpe de 6% ce matin, portée par les résultats semestriels. Et puis enfin, Air France KLM a dégagé un bénéfice net de 324 millions d'euros au deuxième trimestre. C'est la première fois depuis l'été 2019 que le groupe est bénéficiaire. Le géant des médias Vivendi, qui a récemment mis la main sur le groupe Lagardère, et le leader français de l'édition Hachette, se dit prêt à céder entièrement sa filiale Editis, la maison mère de nombre de maisons d'édition en France, numéro 2 du secteur, renonçant à un mariage très controversé par la Commission européenne. Dans la tech américaine, des résultats d'Apple et d'Amazon qui résistent bien malgré le contexte de croissance négative aux États-Unis. Le chiffre d'affaires progresse de 7% pour Amazon, 121 milliards de dollars. Pour Apple, il est supérieur aux attentes à 83 milliards. Et puis on le disait, la SNCF se prépare à sa journée la plus chargée de l'été, 400 000 voyageurs pour le chassé-croisé des vacances. Le niveau des réservations est supérieur de 10% à l'été record déjà de 2019. La bourse de Paris à la mi-journée, elle est dans le vert. Forte hausse, plus 1,2% à 6420 points, portée par ces bons résultats. Midi 33 sur BFM Business. BFM Business avec vous, la rediffusion, c'est parti.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
On prend la direction tout de suite d'Argenteuil, retrouver Laurent Vronsky, l'un des derniers fabricants de compresseurs français, puisque l'objectif du gouvernement français avec le plan France 2030, c'est la relocalisation. Laurent Vronsky était l'invité de Lorraine Goumeau et de Guillaume Paul.
L'industrie aujourd'hui pêche de 30 ans de désaffection et de manque de lustre. Alors la faute à qui, c'est pas le but de l'émission, mais je veux dire que on va commencer par balayer un petit peu devant notre porte. Je pense que les industriels qui sont souvent très préoccupés par leurs problèmes industriels considèrent que communiquer, ouvrir les portes de leurs usines, aller faire un numéro de claquette dans les écoles, ça c'est bien pour les boîtes du marketing, les gens qui font des produits de consommation, mais c'est pas bon pour l'industrie.
On n'est pas des communicants.
Voilà, on n'est pas des communicants. Alors le résultat, c'est que maintenant, au bout de 30 ans, on se retrouve dans une situation où vous avez des gens qui partent à la retraite massivement, puisque là on est vraiment dans le papier boom, et donc vous avez des places extraordinaires à prendre avec des secteurs qui sont à la pointe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire...
Vous pensez auxquels, par exemple ?
Mais à tous les secteurs. Je veux dire qu'aujourd'hui, de croire un instant qu'on produit ne serait-ce que des vis et des boulons ou des t-shirts, comme on le faisait il y a 40 ans, avec des rangées d'ouvrières, avec des machines qui font du bruit, un type qui passe dans les rangs avec un tablier en cuir et un fouet, ça, c'est complètement révolu. Donc, la première des choses, c'est si vous avez l'opportunité d'aller voir dans votre région, si vous avez la possibilité d'assister à des portes ouvertes ou des visites, allez-y, allez voir, vous allez voir, c'est extraordinaire. D'ailleurs, vous prenez l'exemple de ce studio. Là, on est tout ce qu'on a là, les écrans, les micros, tout ça, c'est l'industrie. Je veux dire qu'on n'est pas assis sur des concepts, on n'est pas assis sur des idées, on est assis sur du dur. Et donc ça demande à être fabriqué. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a laissé aux autres le soin de fabriquer pour nous. Mmh. Parce que si je fais l'inventaire de tout ce qu'il y a au niveau électronique dans ce studio, je pense que ça vient principalement d'Asie.
Plutôt de Chine.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai, si vous voulez, une vraie réflexion sur comment essayer de rapatrier les éléments dits stratégiques ou souverains en hexagone, pour éviter ce qu'on a connu avec le Covid.
Et on a, parmi les éléments dans ce studio, beaucoup d'innovations. C'est peut-être là qu'on pourrait investir beaucoup. C'est un témoignage qu'on a reçu de Jean-Luc, qui nous dit, voilà, des années de priorité à une économie de service a plongé notre compétitivité dans une quasi-régression, à peu près dans tous les secteurs, excepté la pointe. C'est ça aujourd'hui peut-être sur lequel on peut miser en France, sur l'innovation, sur l'industrie de pointe.
Mais l'innovation, elle existe partout. Je vais prendre l'exemple d'un produit qui est sans doute l'un des plus vieux produits au monde. On va prendre le pain. Alors, on peut pas dire que le pain, c'est un produit high-tech. Eh bien, vous avez inlassablement, tous les 10-15 ans, des gens qui redistribuent les cartes et qui réinventent la manière dont on fabrique le pain et on le vend. Alors, je vais pas citer les marques à l'antenne, mais il y a une marque très parisienne, qu'on connaît très bien, qui exporte du pain dans le monde entier.
Il y en a même plusieurs.
Voilà,
Kaiser, Poilane, entre autres.
Je vais pas les citer, mais c'est de là, je veux dire, des gens comme ça vendent du pain dans le monde entier. Ils ont révolutionné les choses. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit pas d'avoir le produit, enfin le toaster qui fait à la fois four à micro-ondes, etc. Il suffit d'avoir un regard différent sur un produit qui parfois est assez basique. Et donc, aujourd'hui, au niveau industriel, qui est quand même ce qui guide nos vies. Je veux dire, je rappelle que nous ne vivons pas dans un monde virtuel, en tout cas pour la majorité d'entre nous, et que tous ces objets du quotidien, on les fabrique quelque part.
Alors on les fabrique, mais il faut des mains pour les fabriquer. Ce matin, on interviewait dans Good Morning Business le patron de Royal Mer. Je vous la fais courte, c'est un des derniers fabricants de mailles, énorme expertise en Bretagne, création 1946, 35 machines à coudre, atelier de 6000 m2 et il cherche à augmenter sa production. Je ne vais pas vous donner le chiffre, mais il a une demande qui est monstrueuse et en hausse. Et il n'a pas les moyens humains pour l'instant. Et il reste positif, le patron, Hervé Coulobel, pour suivre cette demande. Alors, comment on peut résumer, pour ceux qui nous écoutent, les enjeux du recrutement autour de ça? Il faut mettre des gens dans les ateliers, il faut mettre des gens dans les usines, il faut mettre des gens dans les fabriques. Où est-ce qu'on les forme? Où est-ce qu'on les trouve? Et comment on les met dans des endroits où il y a du boulot?
Alors, je vais prendre mon modeste exemple, hein, puisque, si vous voulez, des gens qui sont les derniers dans leur secteur, mais j'en connais des tripotés. La plupart des industriels que vous allez rencontrer vont vous dire « Oui, moi, je suis le dernier en France à faire ça. » Bon. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on paye les pots cassés de 30 ans de désaffection, notamment dans le système éducatif, où on disait aux enfants « Bah, écoute, si tu travailles pas bien à l'école, tu finiras à l'usine. » Donc, effectivement, c'est un peu un tue-l'amour. Hein. Bon. Donc, toutes les filières ont commencé un petit peu à se recroqueviller les unes après les autres, avec une désaffection générale de la part du public. Donc là, pour répondre à votre question, Lorraine, c'est aux industriels de prendre leur destin en main. C'est-à-dire, c'est ce que nous avons fait. Il n'y a pas d'école en France pour l'air comprimé. Il n'y a pas d'école du compresseur. Hein, il n'y a pas de doctorat du compresseur. Donc nous, on est allé directement dans les écoles. Alors c'est une démarche à moyen terme. On ne va pas répondre aux problèmes de ce monsieur en claquant des doigts pour la semaine prochaine. Ouais. Il faut aller dans les écoles, au contact des gens, faire venir les jeunes dans les entreprises, leur faire des vrais stages. Pas genre stage photocopieuse ou stage machine à café. On les fait venir dans les ateliers, dans les bureaux d'études. Et là, vous allez susciter des vocations.
C'est ce que fait un peu la chaudronnerie.
Mais c'est ce que font beaucoup d'industriels. Et je veux dire, si on attend des autres que le problème soit résolu, on va pouvoir attendre longtemps. Mmh. Donc je pense que ce monsieur qui est dans un secteur, c'est la maille, c'est un secteur ultra traditionnel qui a été complètement décimé par la migration du textile dans les pays asiatiques. Je suis sûr que ce qu'il fait, c'est sans doute passionnant. C'est lui qui va être le propre artisan de sa communication, c'est lui qui va être son ministre de la communication. Donc la bonne nouvelle, il y a du boulot, il y a des super projets, il y a des super technologies, il y a des jeunes qui se posent des tas de questions, qui ne savent pas quoi faire. Alors plutôt que de faire un an de droit qui ne sert pas forcément à grand-chose et de réfléchir au sens de l'existence, venez dans les boîtes industrielles, venez voir comment ça se passe, faites un stage, ça ne coûte rien. Un mois et demi dans une boîte, vous allez peut-être voir des choses extraordinaires et susciter des vocations.
Et ce stage participera peut-être à rendre sexy les métiers de l'industrie.
C'est exactement
ce que nous raconte Caroline, c'est un témoignage qu'elle nous envoyait, elle est en Bretagne, elle dit voilà, l'industrie n'a pas que des mauvais côtés ou des mauvais jobs, elle est chaudronnière. Le métier n'est pas glamour, elle le reconnaît, mais par contre il est passionnant, le salaire en revanche n'est pas à la hauteur de la tâche. Est-ce que c'est peut-être aussi ça sur lesquels l'industrie pêche?
Mais je veux dire, d'abord, quand on dit l'industrie, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Vous avez des segments qui sont plus ou moins en tension, vous avez des segments avec des niveaux de salaire plus ou moins importants et autres. Mais effectivement, je pense qu'il faut, si on a besoin de compétences, il faut que l'industrie fasse sa révolution copernicienne. Regardez ce qui s'est passé dans l'hôtellerie et les métiers de bouche. Dire qu'il y a un vrai problème de recrutement. Et alors avec le Covid, ça s'est accentué. Bon, ben je dirais, ils ont réfléchi aux conditions de travail, aux salaires. Tiens, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, c'est une évidence. Je veux dire, qui a envie de se sacrifier sur l'autel, je dirais, du travail, sans rien gagner et sans perspective? Personne.
C'est ce que dit le ministre de l'Économie en incitant les métiers où il y a des pénuries de main-d'œuvre, voilà, d'augmenter les salaires pour attirer aujourd'hui les nouveaux candidats. Le plan France 2030, peut-être il peut participer à des investissements massifs aujourd'hui dans l'industrie?
Bien sûr, mais après il y a une question, il y a le temps industriel, il y a le temps économique, il y a le temps politique, il y a le temps social. Et ces quatre temps que je viens de citer, sans jeu de mots, ne fonctionnent pas, si vous voulez, à la même fréquence. Et aujourd'hui, je veux dire que vous avez par exemple des gens qui ont entre 18 et 25 ans, c'est maintenant que ça se décide leur carrière. Alors oui, on peut faire des reconversions à 180 degrés quand on a 45 ans, mais c'est un petit peu plus compliqué quand même.
Bon. Voilà, Caroline, notre chaudronnière de Bretagne, justement, elle, c'est une reconversion. Hein, elle nous dit qu'elle s'est reconvertie il y a 5 ans et elle ne regrette pas. Elle dit aussi, pour modérer l'histoire des salaires, que l'industrie, c'est vaste, c'est ce que vous venez de nous dire, Laurent, et qu'il y a beaucoup de possibilités d'évolution. C'est-à-dire qu'on peut démarrer tout en bas et finir tout en haut. C'est possible. C'est possible chez vous déjà, par exemple?
Mais bien sûr. Nous on prend. Alors, ça fait 30 ans qu'on est confronté à ces problèmes de recrutement. Et comme on est dans un secteur de pointe et un secteur de niche, je veux dire qu'il n'y a pas de filière pour nous. Donc nous, ça fait 30 ans qu'on agit, on réfléchit à la question. Donc ces questions ne sont pas nouvelles pour nous et on sait exactement comment faire. Je ne suis pas en train d'être le donneur de leçons. Mais nous, on est allé évangéliser dans les écoles, ça fait déjà 25 ans. Dans les lycées professionnels, qui est quasiment devenu un gros mot. C'est-à-dire que si tu n'es pas sage ou si tu ne travailles pas à l'école, tu finiras au lycée professionnel. C'est une connerie monumentale. Donc nous, on est allé évangéliser, on fait venir énormément de jeunes. Et j'insiste là-dessus, pour les chefs d'entreprise qui m'écoutent, quand on vous demande des stages de troisième, vous allez dire, mais à quoi ça sert? Ben, ça sert au fait que quand ça se passe bien, et quand on fait venir des tout jeunes, ils racontent ça à leurs copains, et puis ça fait boule de neige. Donc on plante des tas de petites graines, et après, je dirais, on suscite des vocations. Donc oui, nous, on a beaucoup de gens qui sont venus chez nous avec zéro diplôme, et qui ont, si vous voulez, gravi l'échelle sociale.
Pensez pour les jeunes qui ont passé leur CAP hier. C'était les épreuves de fin d'année.
Super.
Qui sont peut-être plus faciles à changer d'état d'esprit sur les métiers de l'industrie que parfois leurs parents, les adultes.
On a un autre témoignage de Fabrice assez intéressant sur LinkedIn qui nous a écrit, qui va nous parler de sens. Hein, c'est un terme très à la mode. Alors que beaucoup de gens ont ressenti un manque d'intérêt pour leur emploi depuis 2 ans, l'industrie est un vrai pourvoyeur de sens. On crée des choses et on cherche à faire mieux à chaque fois. Est-ce que ça vous parle?
Alors, je pense, bon, je suis bien sûr sensible à la remarque de l'auditeur, parce que je suis industriel. Et il a raison. Mon travail consiste à 98% à donner du sens à ce que nous faisons. Que ça soit, de la personne qui est tout en bas de l'échelle à la personne qui est tout en haut de l'échelle. Et ça, je pense que c'est vrai de tout manager. Simplement, quand on est confronté à des chocs exogènes, comme nous le sommes depuis 3 ans, c'est-à-dire que le Covid en est un, la guerre en est un deuxième, il y a des gens qui réalisent que la guerre est possible sur le continent européen, il y a des gens qui se posent des vraies questions existentielles et qui veulent avoir une vie professionnelle qui soit riche et qui soit pas simplement pourvoyeuse de finances pour assurer le quotidien. Donc que les gens aient des besoins, philosophiques, ça me paraît tout à fait logique. Maintenant, si vous avez aujourd'hui une fibre, par exemple, médicale, je dirais que l'industrie médicale est gigantesque. Et quand vous travaillez dans une société qui fabrique des médicaments, qui fabrique des vaccins, qui fabrique des appareils qu'on utilise dans les hôpitaux, je crois que là, il y a le plus beau des sens, c'est la vie. Mais je veux dire que dans notre secteur, je parle de l'air comprimé, nous, on est transversal. C'est-à-dire que vous trouvez des compresseurs Hervor aussi bien à la Tour Eiffel qu'à l'hôpital Georges Pompidou, que dans énormément de process. Donc là, je veux dire que vous avez si vous avez une fibre particulière, vous avez le moyen de la réaliser.
La quête de sens aujourd'hui, c'est ce que cherchent beaucoup de jeunes quand ils se lancent dans leur carrière et dans leur vie professionnelle. Et c'est ce que nous dit Sonia, il faut développer des modèles parmi les professionnels de l'industrie pour les jeunes et les médiatiser. Incarner peut-être.
Alors, je préfère le deuxième mot, incarner. Parce que médiatiser, si vous voulez, ça veut dire juste en parler. Je veux dire qu'aujourd'hui, ce qui a
c'est déjà pas mal d'en parler. Hein.
Non, mais c'est pas bien sûr, mais c'est pas suffisant aujourd'hui. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Et on est peut-être un petit peu en tangente, mais regardez la désaffection du public pour le monde politique. C'est parce que là, vous avez des gens qui parlent beaucoup et qui incarnent pas beaucoup. Donc là, sur la question qui m'est posée, oui, il faut agir via le savoir-faire, le faire savoir et incarner.
Incarner.
Et incarner, ça veut dire, c'est pas juste faire un magnifique numéro de plaquette ou d'aller faire une démonstration à une promotion d'une école de commerce réputée. Ça veut dire irriguer tous les secteurs de l'éducation. Ça veut dire aller au lycée professionnel Jean Jaurès d'Argenteuil. Là, je peux vous dire qu'il n'y a pas la queue pour faire des présentations. Hein. Bon. Et puis, expliquer aux gens ce que vous faites. Qui puisse vous parler, qui voit des vrais gens, qui puisse vous toucher. Ensuite, vous les emmenez dans les boîtes, qui parle avec vos collaborateurs, qu'ils aient une mission concrète. On prend des jeunes et on leur confie un vrai projet. Et je pense que tout, s'il y a des jeunes qui m'entendent et qui sont allés chez Hervor, ils savent très bien que même en troisième, quand ils viennent chez nous, ils ont un petit projet et on leur donne un vrai projet. Ce sont des vrais collaborateurs.
Bon, mais il faut
le trouver.
Vous
serez émerveillés de voir les résultats.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
Midi 48 sur BFM Business, la rediffusion de nos recruteurs qui viennent toute l'année, 100 000 offres d'emploi cette saison sur BFM Business avec vous. Aujourd'hui, on va partir à Nice puisque c'est le début du chassé-croisé aujourd'hui. Lorraine Goumeau était avec Togé Santé dans BFM Business avec vous.
On est au centre de Nice chez Togi Santé, une entreprise de service à la personne qui accompagne des personnes en difficulté. On est dans une salle de jeu là où on est reçu par la chef de service handicap. C'est Madeline Pomponio qui est avec nous. Bonjour Madeline.
Bonjour.
Merci de nous accueillir. Décrivez-nous ce qu'on fait, ce que vous faites, ce que vos équipes font au quotidien, notamment dans cette pièce.
Et ben là, c'est vraiment une salle dite occupationnelle de liens, de regroupement pour les jeunes ainsi que pour les éducateurs avec des jeux, la télé, de la musique, enfin tout à disposition pour qu'ils puissent partager ensemble.
Alors, on parle ici de personnes en difficulté, des difficultés qui vont du trouble autistique en passant par la schizophrénie et les maladies chromosomiques. Comment une PME comme la vôtre, 75 personnes basée à Nice, arrive à adresser tous ces problèmes, toutes ces difficultés mobilises en même temps?
Tout simplement parce qu'on propose un accompagnement dit one-to-one, un éducateur, un bénéficiaire.
Alors, on a une illustration juste derrière nous. Vous allez nous décrire qui est votre petit patient et qui est votre collègue.
Alors ici, on est avec Sévag qui est un jeune homme atteint de trisomie, donc 21, et Julia qui est son éducatrice.
Alors éducatrice, c'est un des métiers dont vous avez besoin pour continuer à grossir. One to one, on comprend que ça veut dire que dès que vous avez un ou une nouvelle patiente qui rentre, patient ou patiente qui rentre, c'est un recrutement nécessaire. Alors quels sont les postes à pourvoir chez vous, chez Togi Santé?
À l'heure d'aujourd'hui, c'est des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, des aides médico-psychologiques et des auxiliaires de vie.
Ce sont des métiers en tension, on en parle sur notre chaîne sur BFM Business. Comment on peut expliquer les difficultés de recrutement que vous avez? Comment résumer vos difficultés?
Eh bien, c'est des salaires qui ne sont pas forcément très élevés. C'est un métier qui rentre vraiment au cœur des problématiques, donc dans l'intimité de ces personnes qu'on accompagne. Donc un métier très humain, qui peut être très dur.
Mais il y a aussi un sujet de vocation. Alors, vous n'avez pas le bac et pourtant aujourd'hui, vous êtes chef de service dans cette entreprise. Résumez-nous votre parcours.
Effectivement, moi, j'ai commencé en entrant dans l'éducation spécialisée par la formation de moniteur éducateur. C'est vraiment le premier pas donc pour pouvoir accéder au métier de l'éducation spécialisée. Puis, je me suis formée à l'éducation spécialisée par éducatrice spécialisée. Et enfin, aujourd'hui, chef de service en formation.
Alors, en formation, parce que vous êtes toujours à l'école. C'est ça comment on peut résumer?
Exactement, c'est exactement ça.
Alors, on voit des métiers en tension, beaucoup de postes à pourvoir. Ici, dans votre PME, c'est une cinquantaine de postes, une grosse trentaine, on va dire, de postes à pourvoir chaque année. Résumons une nouvelle fois les postes qui sont à pourvoir. Donc, vous avez parlé d'éducateurs, de moniteurs, quoi d'autre, qui d'autre?
AMP, aide médico-psychologique, auxiliaire de vie.
Bon, alors voilà, si vous aussi, vous avez envie de participer à ce service à la personne, à ces services à la personne, parce qu'il faut le dire, ce sont des services très pluriels, eh bien, vous pouvez postuler auprès de Togi Santé. Il y a une adresse qui s'affiche à l'écran pour ceux qui nous regardent en direct. Et puis voilà, 30 recrutements par an, ça fait de vous une grosse PME en croissance. Pour conclure, comment vous résumez votre esprit de travail au quotidien et surtout dans un environnement un peu post-Covid où on imagine que vous avez aussi, vous et les équipes, étaient très sollicitées?
C'est vrai que c'est là pour l'instant, c'est un secteur un peu en tension parce que peu de postulants, donc et beaucoup de demandes. Voilà.
Bon voilà, on espère avoir pu résumer un petit peu vos difficultés et attirer des vocations dans l'ensemble du territoire des Alpes-Maritimes, de Menton à Grasse, vous nous disiez, en passant par Mandelieu, Nanapoule, et puis jusqu'ici évidemment si à Nice, centre-ville, et puis bien sûr tout autour de l'agglomération.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.